Nous sommes en compagnie de Gilles Perrin, donc, qui est photographe et qui parcourt la Chine depuis 1989. Vous vous définissez comme un chercheur photographe humaniste dans la tradition d'Edward Curtis, Auguste Sander et Walker Evans. C'est une sacrée filiation.
Oui, je trouve que ce sont des ancêtres assez intéressants et j'essaye d'avoir, je peux pas avoir un point de vue comme eux puisque je vis pas à la même époque, mais je pense que leur point de vue testimonial est, c'est un point de vue qui me passionne, voilà.
Et c'est celui que vous cherchez.
Oui, c'est celui que je cherche. Je cherche à garder des traces. La photographie a un côté, c'est un peu un art mortuaire, puisque une fois qu'on a fait une photo, on peut plus la refaire. On passe son temps à photographier des choses qui vont disparaître, quoi qu'il arrive. Et moi, j'aime bien photographier les changements, pas obligatoirement les disparitions, mais les choses qui sont en train de basculer du fait des changements économiques, des changements culturels. Et j'essaye de garder une trace de ce que je vois.
C'est une manière d'arrêter le temps?
Peut-être, oui. En tout cas, c'est pas nostalgique. Ma vision n'est pas nostalgique.
Alors, si vous deviez donner une définition de la photographie sociale, vous diriez quoi?
Oh, ça c'est certes, c'est très difficile. Moi, je pense que la photographie sociale, c'est la partie qui m'intéresse dans la photographie, c'est de garder témoignage de différentes cultures, de différents lieux, avec pas obligatoirement un esprit analytique. Moi, je travaille avec un esprit émotionnel et sentimental. Voilà, je me laisse prendre par ce que je vois, par les gens, et en fonction de ce que je ressens, je fais les images.
Et vous êtes toujours content de ce que vous faites?
Ça serait immodeste de dire oui, mais c'est vrai que je suis assez content de ce que je fais parce que je pense que je réfléchis bien avant de faire les choses. Et puis, comme j'ai bien réfléchi, après, je peux me laisser emporter par les événements.
Voilà, finalement, l'image que vous voyez correspond à ce que vous aviez dans la tête, ce que vous aviez envie de faire.
Oui, tout à fait. Je pars avec des idées visuelles, attention, des idées visuelles assez préconçues. Je sais ce que je vais photographier et je me mets en condition de rencontrer les événements ou qui soient à la fois dans la forme et dans le fond qui correspondent à ma vision préalable. C'est là où est la difficulté, c'est de commencer à rentrer dans ce que je vois, et à partir du moment où j'ai fait quelques images, les 10 premières, après je me sens mieux et ça fonctionne.
Mais comment on fait pour se mettre en condition et rentrer dans le sujet?
c'est pas facile, c'est-à-dire moi, j'ai à la fois des visions préconçues, hein, parce que je vais dans un pays comme la Chine, je sais quand même un petit peu ce qui s'y passe.
Donc vous vous documentez avant?
Oui, je me documente, puis je suis quand même l'actualité. Mmh. Je lis les journaux, je lis même des livres, donc je suis un petit peu, mais en même temps, je veux pas trop arriver en connaissance de cause, je veux rester une part
de naïveté.
De naïveté, qui est peut-être de la pseudo-naïveté, mais c'est quand même de la naïveté. Je veux pas arriver avec un esprit analytique, parce que après, je veux faire un travail de sociologue ou d'anthropologue, j'en ai pas la formation, donc je ne prétends pas l'être. Moi, ce que je veux faire, c'est du travail sentimental, échanger avec les gens, échanger des regards, des sourires, qu'il se passe quelque chose entre eux et moi. Et bon, moi, j'ai une technique photographique de présence. Je pratique comme dans les arts martiaux japonais. Je suis là, j'existe et je montre aux gens que j'existe. Donc, il se produit des échanges dans le non-dit, parce que je pratique pas le chinois, ou si peu que c'est... Puis je veux pas le pratiquer, parce que dès qu'on est en Chine, et si on connaît correctement 30 mots de chinois, et qu'on les dit bien avec le bon accent, les gens pensent que vous parlez chinois, et là, c'est la catastrophe, parce que là, on ne comprend plus rien du tout, parce qu'ils se mettent à parler, et c'est fini. Donc, moi, j'essaye d'être là, d'être présent, de leur montrer que je suis là, je ne me cache pas, je ne vole pas les images, je suis vraiment dans l'échange, mais parfois, l'échange, c'est juste un regard, une petite complicité, un clin d'œil, et ça, je trouve ça fantastique. Et quand je travaille en grand format, je travaille avec une chambre sur un pied, je travaille avec ma femme qui est à côté de moi, qui se débrouille bien mieux que moi en chinois et dans d'autres langues d'ailleurs. Et le principe, c'est que je fais une photo en 4-5 inches et avec un film instantané de chez Polaroid, et il y a un négatif, un positif, et je donne le positif aux gens, donc il y a un échange. Bon, quand je travaille dans d'autres formats comme des formats panoramiques, qui sont aussi des formats que j'aime bien dans leur forme, là je peux pas donner de photos, Mais j'essaye toujours, quand je photographie dans la rue, je me mets à un endroit sachant qu'il va se passer quelque chose. Quoi ? Je l'ignore. Je sais qu'il va se passer quelque chose. J'attends. Et il se passe systématiquement quelque chose que j'ignore. Mais je suis dans les conditions techniques pour réussir la photo. Alors, ça va du vélo au camion, à un âne, un chameau, quelqu'un qui me regarde, qui dit qu'est-ce que c'est que cet étranger de l'Ouest qui est là avec une drôle de machine.
Ce long nez.
Oui. Il me regarde. Et alors, c'est très souvent des sourires. Hein, et il y a un sourire et d'un seul coup, il y a un échange comme ça. Et puis après, souvent, les gens viennent voir ma caméra parce qu'elle est bizarre. Et puis, bon, on essaye d'échanger au moins sur la technique. Et il y en a qui sont, la plupart du temps, les gens sont tout à fait ravis d'être photographiés. Je leur fais signe qu'ils retournent faire leurs activités parce qu'ils ont une activité dans la rue. Bon, ils s'y reprêtent très volontiers. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est profondément l'échange, mais qu'on retrouve chez mes ancêtres, comme Sander ou Curtis. Il y a toujours des échanges dans leurs photos, ça se voit.
Donc la photographie comme vecteur d'émotion, principalement.
Ah, tout à fait, oui, c'est exactement ça.
Alors, du Mali au Pérou, et de l'Égypte en passant par la Chine, donc vous parcourez le monde. Et pourquoi ce besoin d'allier la photographie avec le voyage ? Parce que finalement, vous pourriez vous poser dans votre quartier avec votre chambre et regarder ce qui s'y passe.
Eh bien, je le fais aussi. Non, mais j'aime bien voyager. Bon, j'ai fait le même type de travail en France.
Vous l'avez fait
ici.
Dans le Nord, d'ailleurs.
Je l'ai fait dans le Nord, ici, en les années 90. Je l'ai fait dans les Hautes-Pyrénées, dans un petit village où j'ai photographié, tout petit village, j'ai photographié les habitants de ce petit village. Je l'ai fait dans des banlieues comme Bobigny, où je l'ai fait plusieurs fois. Et dans d'autres endroits, sûrement, j'ai un petit peu oublié. Mais j'aime bien voyager parce que j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs pour essayer de comprendre les gens et comprendre les autres cultures. Avant, voyager, c'était toute une aventure, il y a 50 ou 60 ans. Alors, il y avait un côté découverte, enfin, un petit côté colonialiste comme ça. On allait découvrir les sauvages qu'on connaissait à peine parce que c'était étonnant. Mais bon, maintenant, c'est une époque qui est révolue, heureusement, en même temps. Mais tous ces gens qui ont été travaillés ont fait des carnets de voyage. Moi, je pense à Victor Segalen, c'est extraordinaire. Enfin, maintenant, on voit ses photos. On se dit, s'il n'avait pas fait de photos, qu'est-ce qu'on aurait comme document ? Son texte ?
Aucun témoignage.
Mais, oui. Donc, y a...
Et son texte, c'est quand même assez obscur hein, en même temps.
Oui, oui, en plus, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des photos. Donc, la photo, c'est parlant. Hein, et je crois que c'est...
Ça parle à tout le monde, ça, c'est sûr.
C'est un vecteur de communication intéressant. Et puis, après, quand on cherche des... entre parenthèses, des preuves d'existence, eh ben, y a ces images qui sont là. Et si c'est bien fait, c'est lisible 50 ans, 60 ans après, et c'est lisible dans le sens qu'a voulu donner le photographe. C'est-à-dire que c'est difficile, quand on voit des images de Walker Evans, il a donné un sens à ces images, les images sur Cuba. Alors on peut avoir de la nostalgie vis-à-vis de ça, c'est autre chose, mais elles sont lisibles et on ne peut pas se tromper de sens. C'est ce qu'il a voulu dire, c'est clair, net et précis. Alors après, on peut avoir un jugement là-dessus, je suis d'accord. Mais le sens des images est là, il est présent. Voilà, ça veut dire ça. C'était comme ça à ce moment-là. Et moi, je pense que c'est c'est le rôle des photographes, enfin des auteurs photographes, c'est de créer des images qui ont un sens, une lisibilité et qui transmettent une émotion à leur lecteur. Moi, je dis, je fais des photos et puis je laisse quand il y a une exposition, le soin aux spectateurs de regarder les images. C'est à eux de se mettre dans mes images, mais je les oriente un petit peu quand même.
Alors, pour faire ces images, vous avez parlé techniquement de la chambre et de la pose. Mmh. C'est quand même pas si facile. Vous parlez de rencontres et en même temps, vous avez un matériel lourd et qui oblige à la pose. Pourquoi vous avez choisi ce matériel ?
Voilà, je l'ai choisi justement parce qu'il est lourd, qu'il est inconfortable et que ça ne marche pas tout seul.
Ça, c'est du masochisme, ça.
Peut-être. Non, mais actuellement, il y a des transformations techniques oui. dans la photographie. Déjà, à la fin de l'argentique, avec le matériel qu'il y avait, qui était extrêmement performant techniquement, maintenant, les machines marchent toutes seules. Et moi, je ne supporte pas que les machines fassent les photos à ma place. Je suis extrêmement orgueilleux. C'est moi qui fais la photo, c'est pas la machine. Et une chambre 4-5, vous pouvez la poser par terre, fera pas de photos. Vous mettez un appareil numérique, là, on le déclenche, il va faire 150 photos, et dans les 150 photos, il y aura des trucs intéressants. Donc on peut se poser la question, où est l'intervention du photographe ? Mm-hmm. Est-ce que c'est dans la démarche, dans le geste, de poser la machine qui va marcher toute seule, ou c'est dans la démarche de dire, c'est moi qui vais appuyer sur le bouton, et c'est moi qui vais décider, et ça ne sera pas aléatoire. Et avec la chambre, c'est comme ça. Puis on peut pas voler de photos. Et les gens, ils ont pas peur. Je viens pas avec un énorme téléobjectif, un machin, un truc qui est proche d'une arme à feu et comme ça. Moi, je me pose, je regarde les gens, je leur fais des sourires, j'essaye de leur faire comprendre ce que je vais faire, ma femme va discuter avec eux, j'installe mon bazar, ça peut demander, quelquefois je mets 2 minutes à faire la photo parce qu'il y a une espèce de presse de trucs. Ça m'est arrivé au Pérou de faire des photos de manifestations et les manifestants devant, avec des coupeurs de canne, avec d'énormes machettes et des flics derrière moi avec d'énormes flingues et des boucliers. J'étais pas tellement à l'aise. Non, j'ai été très très vite.
Pas le temps d'attendre là.
Mais ça, c'est quand même des choses excessives. Oui,
en Chine, on peut prendre beaucoup plus de temps.
Les Chinois sont des gens très patients,
très calmes,
très calmes, très cool. À partir du moment où ils acceptent, bon, ils peuvent très bien refuser, mais ça arrive relativement rarement. À partir du moment où ils ont accepté, on se pose, on prend le temps. Et puis après, ça se termine autour d'une tasse de thé, d'un repas. Ça les amuse beaucoup. Ils ont une grande curiosité. C'est agréable de photographier des gens qui sont très curieux.
Alors finalement, ce matériel, c'est aussi pour remettre l'homme derrière la machine. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous appuyez sur le déclencheur? Vous avez dit tout à l'heure, j'aime bien poser. Mais à un moment, il faut se dire, je fais cette photo. Oui. Et pourquoi vous la faites?
Eh bien, alors déjà, dans la démarche, les gens que je photographie, je leur demande de regarder l'objectif. Qu'ils aient l'œil fixé sur l'objectif. C'est très très important qu'ils regardent l'objectif parce que ça permet aux gens qui regardent l'image après de les regarder dans les yeux. Il y a un échange de regards. Et quand on regarde les gens dans les yeux, on n'est pas dans le mensonge. On est dans la véracité. Donc c'est un signe de véracité dans toutes les cultures de se regarder dans les yeux. Donc c'est très important. Je travaille avec des vitesses lentes de l'ordre de la demi-seconde, de la seconde, du huitième de seconde. Et pendant ce temps-là, les gens, ils voient l'objectif qui s'ouvre et qui se ferme. C'est pas tchac-tchac, c'est chkling, chkling. Ils le voient, ça.
Ça se matérialise.
Ça se matérialise. Donc c'est une espèce de... ça matérialise l'échange. Et moi, je suis à côté, je leur demande de regarder. Je les laisse un peu dans leur position où ils étaient quand ils travaillaient ou quand ils étaient à même à rien faire. Je laisse se mettre en scène. Je fais des petites modifications pour des raisons de cadrage et d'esthétisme et de lisibilité de l'image. Et puis, bah, j'attends et puis je leur dis de regarder. Puis à un moment, il y a un petit truc qui se produit au niveau de ma sensation à moi et de leur sensation à eux. Et j'appuie sur le bouton et la photo est faite. Et en général, je fais une prise, voire deux, mais très rarement plus. Parce que si c'est comparable un petit peu à la musique. Quand un violoniste ou un guitariste, enfin un musicien joue, il est en concert, il va pas dire « Oh, attendez, excusez-moi, la mesure 45, là, je viens de louper 2 notes, on va la reprendre. » Non, ça, on le fait en studio, ça. Mm. Voilà, ça, c'est autre chose. En studio, on peut reprendre les passages qui ont raté. Mais quand on joue live, on enchaîne. Et puis, il faut que ce soit bon, parce qu'il y a 300, il y a 1000 personnes qui écoutent et on peut pas se permettre d'être mauvais.
Donc, c'est de la photographie live.
Oui.
Voilà, on va dire ça. Alors, vous parliez de regard tout à l'heure, c'est pour ça que vous faites tellement de portraits, parce que vous en faites énormément.
Eh ben, je fais, oui, principalement des portraits à, disons, 90%, et même quand je ne travaille pas à la chambre, que j'ai un appareil panoramique de format double ou triple carré, parce que c'est des formats harmoniques, c'est en rapport avec les codes picturaux, je me débrouille, puis tout le temps quelqu'un dans l'image. Je ne fais pas d'image vide, il faut qu'il y ait une présence, qui est plus ou moins proche physiquement de moi, mais il faut qu'il y ait une présence quelque part, il faut qu'il y ait des gens, il faut que ce soit vivant. Ça me semble important parce que un paysage, je fais des portraits pareils, à part qu'ils sont, je suis un petit peu plus distant des gens, mais ils me voient, je me cache pas du tout, je me mets en face d'eux et je leur demande aussi, dans la mesure du possible, de me regarder.
Mais finalement, c'est le patrimoine humain qui est plus important. Oui. C'est pas l'architecture, c'est pas les arbres,
c'est les gens,
hommes.
Oui. Ben, les hommes, c'est eux qui font l'architecture, quoi qu'il arrive.
C'est vrai.
Et qui font le paysage.
Est-ce que vous pensez que la réalité en photographie, c'est quelque chose qui existe?
Non, je crois pas. Il y a un côté qui est totalement subjectif dans la photographie. Surtout quand on fait des photos comme je pratique, qui sont faites dans la sentimentalité, dans l'émotion. Voilà, il n'y a rien de plus subjectif, quoi. Donc, ça m'est arrivé faire des portraits dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie, où j'ai photographié des tribus, je crois que c'était des Surmas, enfin bon, des tribus de guerriers. J'ai fait des photos de jeunes hommes magnifiques, et en les photographiant, après, j'ai appris que c'était des assassins, que la veille, ils venaient tuer 6 personnes. Ouais. Et sur mes photos, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont aimables et charmants. Ça m'a fait un petit choc quand même, mais ouais. Bon...
Est-ce que ça trompe?
C'était comme ça, et eux, ils se présentaient comme ils étaient.
Et vous les avez vus comme ils étaient à cet instant-là.
À cet instant-là, peut-être que... Bah oui, bah, ils peuvent être sympathiques. Hein. J'étais assez surpris quand même. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a une grande part de subjectivité. Moi, je cherche pas à reproduire le réel. Je reproduis le réel de mon émotion, ça s'arrête là.
Alors donc, on l'a dit, vous pratiquez la Chine depuis 89. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays ?
Alors là, c'est pour moi, c'est un pays qui est totalement incompréhensible. Voilà. Donc je suis toujours fasciné par les gens, les journalistes, les économistes, les politiques qui m'expliquent la Chine. À la radio ou dans des livres, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont forts quand même pour m'expliquer la Chine ?
En fait, ils sont comme vous, ils n'ont rien compris, mais ils essayent.
Enfin, oui, ils prétendent comprendre, mais j'ai rencontré des journalistes sérieux, notamment Frédéric Bobin, qui était correspondant du Monde en Chine, à Pékin. Et à chaque fois que je le voyais, il me disait, mais j'y comprends toujours rien, ce pays, pourtant il parlait chinois. Il était là depuis 5 ans, il me dit, j'y comprends rien. Je dis,
Pierre Aski aussi, c'est pareil.
Oui, c'est ça, oui, j'ai rencontré aussi Pierre Aski à Pékin.
Il dit la même chose.
Il me disait, j'y comprends rien du tout. Je lui ai dit, moi je venais les voir pour qu'ils m'expliquent un peu, en plus, j'avais des espoirs. Il me dit, non, oui. Le lundi matin, on ne sait pas ce qui va se passer le lundi soir. Effectivement, on peut quand même comprendre des choses, parce qu'à chaque fois qu'il y a les congrès du Parti communiste chinois, les plans sont indiqués, c'est clairement dit, et ils essayent de les suivre en plus, c'est ça qui est étonnant.
Et on vient de terminer le 17e.
Oui, donc il y a quand même y a des choses incompréhensibles et des choses qui sont annoncées, ça, c'est un peu bizarre pour des occidentaux, quoi. Et je pense qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas en Chine, parce qu'on a notre regard d'occidental. De système de libéralisme économique, c'est que malgré tout, le gouvernement chinois est marxiste-léniniste dans son système, mais il est marxiste, donc ils ont une vision marxiste des choses que nous on n'a pas.
Mais je suis pas persuadé qu'ils aient lu le texte le même que nous.
Oui, c'est possible en plus.
J'ai l'impression qu'avec la traduction chinoise, il y a des trucs qui ont disparu.
Oui, qui ont disparu, ils en ont rajouté.
Mais moi, je pense qu'ils l'ont réécrit carrément.
Oui, ils l'ont réécrit à leur sauce.
Bah oui, mais ça marche pour eux, donc ça marche. Ils ne vont pas s'en priver.
Voilà, moi j'aime bien ce pays parce qu'on n'y comprend rien.
Donc toujours la surprise. Mais alors justement, ça fait longtemps que vous y allez. Les changements que vous avez constatés, qu'est-ce que vous en pensez ?
À première vue, comme ça, je me dis, ils sont en train de retomber dans les mêmes erreurs que les Occidentaux. Les paysans qui crèvent de faim, faut le dire. Bon, ils mangent, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai vu des paysans, au pied de la Grande Muraille, au nord de Pékin. Des gens qui viennent, on est sur la muraille, ils viennent vous vendre un Coca-Cola ou une tasse de thé. Ils sont d'une pauvreté épouvantable.
Ouais, c'est les fameux Mingong.
Oui, et ils nous disent, on n'a pas d'argent. Ils cultivent du maïs parce qu'ils peuvent même pas cultiver du riz. Ils n'ont pas d'argent pour acheter du riz à planter. Le seul truc qu'ils peuvent cultiver pour manger, c'est du maïs. Donc on se dit, oulala.
Et encore, ceux qui cultivent, c'est pas mal. Mais alors, il y a ceux qui se vendent dans les chantiers.
Donc ils viennent... Bon, on se dit, et puis c'est ce système aussi d'urbanisation outrancière, parce qu'il faut bien loger tous ces gens, de banlieue en banlieue en banlieue en banlieue. J'ai rencontré des cadres supérieurs qui travaillaient dans l'entretien des avions, donc c'est des gens qui n'étaient pas à réparer les réacteurs, qui étaient les techniciens supérieurs. Pour venir travailler, c'était 2 heures de transport en commun.
Oui, ils vous disent tous ça. Oui. 2 heures à l'aller, 2 heures au retour.
Oui,
bien sûr.
Oui, donc 4 heures par jour, en plus de la journée de 8 heures.
À Pékin, c'est un minimum.
Oui, c'est ça, oui. Donc,
et 7 jours sur 7, parfois.
Oui. Alors, on n'y comprend rien à ça. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Ça veut dire cette urbanisation, ça va créer des problèmes de délinquance. Et il y en a, il suffit de regarder la télévision chinoise, puisqu'il y a tous les soirs le petit quart d'heure de rééducation, la petite demi-heure des gens qui ont été arrêtés, parce qu'ils ont fait des choses répréhensibles et qui disent c'est pas bien, oui c'est normal qu'on aille en prison, on va être rééduqué, etc. J'ai pas l'impression que ça marche aussi bien que ça, mais enfin bon, ça existe. Et où vont-ils? Mais en même temps, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je sais ça, je suis étonné, parce que je me dis, ils sont quand même pas idiots, ils voient bien ce qu'ils font, et ils font les mêmes erreurs que les Occidentaux. Bon, pourquoi, comment? Parce que c'est planifié, la disparition de la paysannerie. Il faut qu'ils passent, comme en Occident, il y a 80% peut-être maintenant 75% de paysans actuellement, il faut qu'ils arrivent à 10%, c'est planifié, c'est dit clairement dans les instances du parti.
Ils veulent faire notre modèle, mais en mieux.
Oui. Je leur souhaite.
Oui, il y a encore du travail.
Oui.
Quand vous êtes en Chine, vous cherchez quoi en priorité pour faire des photographies? Des gens, bien sûr, on l'a dit, mais les campagnes ou les villes?
Dans les villes, ce que je cherche, c'est plutôt les banlieues. Là où c'est nouveau, là où ça bouge, là où on construit
des... Enfin, à Pékin, c'est nouveau partout, donc ça va.
Oui, non, mais il y a d'autres villes. Hein. Si on va à Wuhan, ouais, c'est pareil.
Si on va chez les Ouïghours, là, à Urumqi, il y a aussi des choses.
Oui, pareil, oui, les constructions chinoises insensées, là, les immeubles recouverts de carrelage rose et blanc ou vert et blanc, là, ça ressemble à des...
Avec un petit toit en pagode, ça,
oui, j'adore. Avec des... ou les immeubles dans le style de la nouvelle gare de Pékin, qui sont totalement atroces.
Oui, c'est ça, il y a un gratte-ciel à l'américaine et puis qui est couronné par un toit chinois.
Oui, avec du marbre ou du granit bien brillant. Alors moi je recherche un petit peu, moi je recherche les lieux de vie, mais enfin en Chine il y en a partout. Donc la première chose que je fais, je m'installe, je dis tiens on va aller faire un tour, et comme par hasard, je vais pas obligatoirement, si je suis à Shanghai dans Nanjing Road, je me retrouve au bord du fleuve dans des quartiers à moitié pourris, à moitié démolis parce que ils vont raser quelque chose, ils vont repartir. Alors bon, quand je me retrouve dans des lieux où je suis invité, comme ça m'est arrivé à Shanghai où j'avais été invité par la municipalité avec d'autres photographes pour faire des photos, j'ai profité du système administratif, du chauffeur, de l'interprète, du guide plus ou moins policier qui faisait son rapport le soir. Et donc bon, c'était sympathique, donc ça m'a permis d'accéder à des lieux où en tant que photographe lambda ou touriste j'aurais eu sûrement beaucoup de difficultés à rentrer, non pas parce que c'est secret, mais aller dans une ferme, j'ai eu beaucoup de mal d'aller dans une ferme collective, une vraie ferme, mais je suis allé aussi dans des fermes bio. En Chine, aussi bizarre que ça paraisse, où il y a une pollution colossale, il y a des fermes bio, des vraies fermes bio avec des bons produits.
Et ils exportent en France.
Eh oui, oui, mais ça m'arrive
d'acheter du riz bio.
Oui, du riz bio. Ouais, j'ai acheté de la farine de sarrasin bio, provenance Chine.
Mais oui, voilà, oui.
Mais... Bon, enfin, j'espère que c'est bien contrôlé parce que...
c'est contrôlé par les systèmes français, donc a priori,
oui, bon,
c'est...
Oh.
Bon, allez, on va pas faire de crise de confiance.
Non, absolument pas. Et donc, je cherche à rencontrer ces gens. Moi, je cherche à rencontrer la vie ordinaire, voilà. Pas la vie extraordinaire parce que c'est la vie de tous les jours qui m'intéresse. Alors, ça peut être aussi en rencontrant des cadres administratifs, des ingénieurs ou des choses comme ça. Hein, mais aller dans des usines de pointe à Putong, à Shanghai, où il y a toute la haute technologie, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. L'usine Coca-Cola de Shanghai, si on n'a pas vu, ça vaut le déplacement.
Mais c'est peut-être pas aussi bien pour faire des photos.
Si, parce qu'il y a des gens dedans. Il n'y en a pas beaucoup, certes, ça marche tout seul. Mais il y a des gens qui sont là, qui travaillent. Ça change complètement d'un petit commerce ou d'un agriculteur dans les banlieues qui est en train de cultiver, je sais pas, 5000 mètres carrés de choux chinois ou de...
Donc finalement, vous n'avez pas de préférence entre les deux?
Non, je n'ai pas de préférence.
C'est simplement au hasard.
Oui, il y a une grande part de hasard. Parce que je pars du principe que si j'attends, il va se passer quelque chose.
Et il se passe quelque chose.
Et voilà.
Comment vous voyez l'avenir de la Chine?
Alors ça, c'est une grande question parce que à chaque fois que j'y vais, je me la pose, je me dis mais que va devenir ce pays? Comment ça va finir par fonctionner? Parce que bien sûr, beaucoup de la classe moyenne est énorme en Chine, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Peut-être pas par rapport à la population, mais en chiffres. Je sais plus, au dernier voyage, d'après les chiffres de l'ambassade de France, on l'estimait à 200 millions de personnes. Donc déjà, la classe moyenne chinoise en nombre est supérieure à la classe moyenne chinoise européenne. Parce que je parle de classe moyenne, hein. Je ne parle pas des gens très riches ou des gens très pauvres. Donc, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir de l'eau chaude, de l'électricité, du chauffage.
Ça, c'est sûr qu'on ne va pas s'étonner. Hein. Hein,
donc, on trouve ça très agréable. Je ne vois pas pourquoi eux n'auraient pas envie d'avoir des voitures, etc. Mais manque de chance, si les Chinois deviennent comme les Américains, ça va coincer, puisque les États-Unis consomment un quart du pétrole mondial. Les Chinois vont y arriver très, très vite. Donc, ça va faire déjà avec deux pays la moitié de la production pétrolière. Il va falloir que le reste partage les miettes. Ça va coincer. La planète est finie.
C'est parce qu'en fait, les Chinois, ils nous obligent à voir la mondialisation dans ce cas-là de plus rude, de plus difficile.
Ah, ça, oui,
et en fait, ils nous obligent. Et c'est ça qui nous bouge un petit
donc,
peu.
Donc, je ne sais pas comment... Moi, je ne ferai aucune prédiction. Je souhaite que ça s'arrange. Mais
pour tout le monde, d'ailleurs.
Oui,
parce
mais
que quand
vous
ça
savez,
s'arrange pour eux, ça s'arrangera pour nous.
Automatiquement, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à y croire. Je dis toujours, c'est comme la mort. Tout le monde sait qu'on va mourir, mais personne n'y croit jusqu'au moment où ça arrive. Et là, on
mais
va.
C'est peut-être ce qui nous. Si on peut vivre uniquement parce que justement.
Je pense qu'on va allègrement vers une espèce de catastrophe catastrophique et que personne ne veut changer, hein, parce que c'est vrai qu'en Chine, ils font un effort pour la comment. contre la pollution, faut le dire quand même. Mais on remonte le Yangtze-Kiang en bateau, il y a des grandes inscriptions en chinois qui disent qu'il faut lutter contre la pollution sur le bord, sur les vallées, là, des lettres de 5 mètres de haut qui sont lisibles par tout le monde. Le Yangtze, c'est une énorme poubelle. Il y a les emballages en polystyrène que les gens mangent sur le bateau et ils passent devant le truc, ne polluez pas, et puis ils balancent tout dans le fleuve.
Ça, c'est des contradictions de
oui, et quand on prend le train qui vient de Shanghai ou de Canton, à chaque fois qu'on arrive à Shanghai ou à Canton, 100 km avant d'arriver, les arbres l'hiver sont couverts de fleurs qui sont les sacs en plastique rose, blanc, bleu. Alors je me dis, dans un pays totalitaire, ça serait quand même pas très compliqué de dire aux gens, ce soir tout est ramassé. Eh ben non, rien n'est ramassé, puis tout le monde s'en fout. Donc
on va voir. On va.
Ah mais on verra ce qui va arriver. Moi, je suis pas spécialement pessimiste, mais je suis pas spécialement optimiste non plus. Je suis curieux de voir, voilà.
Alors, il me semble que vous avez une exposition bientôt à Pékin. On l'annonce.
Oui. Alors, il y a une exposition à Pékin. Le problème, c'est que je connais pas le nom de la galerie. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est bientôt en tout cas.
Non, mais ça, c'est une exposition qui va avoir lieu au moment du Nouvel An. Donc, dans une galerie à Pékin, et dont j'ai oublié le nom, ça c'est pas bien du tout. Mais bon, c'est encore fait à la chinoise, c'est-à-dire que tout va se déclencher au dernier moment, parce qu'ils sont très très forts pour résoudre les problèmes au dernier moment. Ça fait 6 mois que j'ai envoyé les photos, ils ont toujours pas choisi, mais c'est programmé, c'est tel jour à telle heure. Bon. Et ça se fera, parce que ils ont un sens de l'improvisation qui est assez étonnant quand même. Parce que
l'improvisation organisée.
Oui, parce qu'on ne sait jamais. Ils disent ça va se faire, oui, mais rien n'est prêt. Et puis d'un seul coup, et hop, en 48 heures, hop, la peinture est toute faite, tout est accroché et tout se fait. Donc, je pense que ça va être un truc un peu important parce que je crois que j'ai des sponsors normalement du type EDF ou des gens comme ça. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner. Je suis un petit peu inquiet. Je me dis, que va-t-il se passer? Mais ça va marcher. Je les ai vus faire, je sais qu'ils sont capables d'une efficacité redoutable.
Bon, on annoncera donc le lieu dans le prochain Bruit de Chine.
Voilà.
Gilles Perrin, merci.
Merci à vous.